RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
God save the Queen, parce que la reine est morte, vive le roi. Bonjour Olivier Truchot.
Il faudra chanter le God save the King maintenant. Bonjour à tous, welcome, hello, good morning.
Nous sommes avec Sir Bruno Pommard. Sir Bruno Pommard.
Hello Alain, hello Olivier, hello les grandes gueules, je suis très content d'être parmi vous.
Sir Etienne Liebig,
hello, bonjour. Goodbye.
Hello, goodbye. Et puis Miss Barbara Lefebvre.
Non,
eh oui, Lady Barbara Lefebvre.
Ah voilà,
bien sûr.
C'est bien ainsi
tu
que.
Tu parles anglais, Barbara?
Hein? Oui, yes,
anglais.
I speak English. Ouais.
Bon, vous imaginez bien que dans les GG, on va évoquer la mort de la reine d'Angleterre, mais on va l'évoquer à la mode grande gueule aussi. C'est-à-dire, franchement, est-ce que vous êtes triste? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous êtes ému? 32-16 pour le dire aux grandes gueules. Et puis à 10h, l'avènement de Charles III. 73 ans. Il monte sur le trône, Charles d'Angleterre, sera-t-il
à l'heure où on devrait arrêter de travailler.
En plus, il a une fortune personnelle de 150 millions d'euros.
Ça serait jamais.
Donc, sera-t-il à la hauteur de la tâche? Bref, ces sujets, on va les évoquer avec vous. Et puis, à 11h20, tout à l'heure, dans le GG 7 et match, est-ce que la France est nostalgique de la monarchie? La France a-t-elle besoin d'un roi? Alors, il paraît que nous avons déjà un monarque à l'Élysée, mais enfin... 32-16, là encore, pour en parler avec les GG. Donc, la mort de la reine d'Angleterre, de la reine Elisabeth, êtes-vous triste? Êtes-vous touché? Oui ou non? Venez le dire en toute franchise. Êtes-vous ému? Ça se passe dans les GG, dans les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
C'est vrai qu'on a su assez rapidement que l'heure était grave hier, non seulement parce que la famille se rassemblait à Balmoral, mais parce que selon une espèce de tradition ou du coutume, les présentateurs de la chaîne BBC s'étaient habillés de noir.
Oui, le drapeau était en berne à Buckingham, les présentateurs habillés en noir, et surtout toute la famille royale qui s'est réunie au chevet de la reine Elisabeth II. Forcément, on se doutait bien que les nouvelles seraient mauvaises, et en fait, on sait aujourd'hui que la première ministre britannique, Liz Truss, la nouvelle, a été informée dès 17h30, heure française, du décès de la reine. Et ça a été annoncé 2 heures après. Donc en fait, à 17h30, la reine était morte. Et le temps que tout se mette en place, ce protocole, le temps que la famille royale, justement, soit réunie, les quatre enfants, les petits-enfants, etc., eh bien, on a annoncé ensuite à 19h30. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'émotions en Grande-Bretagne, même s'il y a 96 ans, il n'y a pas non plus un choc. Malheureusement, il fallait s'y attendre. Alors moi, je voudrais savoir si en France, on est ému. Est-ce que vraiment, en France, quel est notre rapport vis-à-vis de cette reine britannique? Est-ce que lorsque vous avez appris, mes chères grandes gueules, le décès de la reine Elisabeth II, vous avez été émue? Tiens, Barbara.
Oui, tout à fait. Alors, je pense d'abord qu'elle a eu une belle vie. Je pense qu'elle a eu une vie conforme à ce qu'elle voulait, même si elle a eu des moments difficiles dans les années 90, on le sait. Mais c'est une femme qui a vraiment donné sa vie à son rôle. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on est admiratif d'elle. Et je trouve que Liz Truss a fait un discours très sobre, mais elle a dit deux choses que moi je ressens vis-à-vis de la reine d'Angleterre. C'est la grâce et la dignité. Et je trouve que la grâce et la dignité sont tellement des choses qui manquent dans l'époque dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que les personnalités, qu'elles soient politiques, médiatiques, culturelles aujourd'hui de notre époque, sont tellement peu gracieuses et ont tellement peu de dignité vu qu'elles étalent leur vie ou leurs opinions sur les réseaux. Que la grâce et la dignité de la reine, plus son côté jovial que tout le monde connaît, parce qu'il paraît qu'elle avait beaucoup d'humour et qu'elle était capable de dire les choses, ça se voit dans son visage, dans ses yeux. Moi, j'étais émue. En même temps, c'était une dame âgée. On avait vu au jubilé qu'elle était quand même très affaiblie. Mais moi, je comprends l'émotion d'abord des Britanniques. Et puis moi, oui, j'étais... C'est une page qui se tourne. C'est le 20e siècle aussi qui disparaît. Et personnellement, je ne suis pas de mon époque. Le 21e siècle ne me fait pas rêver. Donc évidemment... J'ai beaucoup d'émotions à la revoir, en tout cas.
Parce qu'on rouvre tout un livre d'histoire, en plus, avec elle, c'est sûr.
Oui, un livre d'histoire, un beau livre d'histoire, parce que c'est une femme qui s'est engagée pendant la Seconde Guerre mondiale, on en parlera, elle avait 15 ans, mais qui ensuite vraiment a tenu son rôle et a fait son devoir. Aujourd'hui, qui fait son devoir parmi les chefs d'État? Ben, pas beaucoup.
Bruno?
Oui, bah écoutez, moi, oui, effectivement, un grand respect pour cette grande dame, 70 ans de règne, elle a, c'est le cas de dire, elle a enterré un paquet de chefs d'État, hein, de Coty jusqu'à, enfin, pas Macron, parce qu'il n'est pas encore enterré, mais...
Jusqu'à Giscard.
Elle a connu 10 Giscard, présidents Chirac, français.
C'est impressionnant, 10. Au même titre que les premiers ministres. Moi, écoutez, je suis pas plus touché que ça, peut-être à choquer nos auditeurs, parce que en même temps, c'est la fin d'une époque. C'est vrai que, comme tu le disais, Barbara, elle apaisait un petit peu la population britannique dans son comportement, dans tout ce qu'on ne connaît plus, nous, depuis bien longtemps. Mais en soi, bon, mais écoutez, c'est une page de l'histoire qui se tourne avec un roi, maintenant, qui arrive et qui va prendre le trône. Moi, je suis pas plus, je vous dis, choqué que ça, ou voilà, je suis interloqué parce que c'est un moment un peu difficile pour nos amis britanniques. Je sais que c'était une grande amie de la France également, mais c'est pas plus que ça, très sincèrement. Je suis pas plus touché que ça.
Étienne.
Non, je suis pas ému sur le plan personnel. On est ému sur le plan historique. Et puis je rappelle par ailleurs que on peut analyser le règne de la reine d'Angleterre, mais pas que d'elle d'ailleurs, comme une sorte de leurre, c'est-à-dire leurre, oui. C'est-à-dire que on a l'impression que cette Angleterre est fixe parce que est immobile. Parce qu'il y a une reine d'Angleterre, mais en réalité, l'Angleterre a évolué exactement comme tous les autres pays européens, exactement à la même vitesse, exactement de la même manière, et avec, elle a perdu de sa grandeur de la même manière avec la perte des empires coloniaux, elle a perdu aussi de sa grandeur et de son influence à tous les niveaux. Je rappelle, c'est amusant parce que finalement, quand on regarde les mouvements importants des années 70, etc., c'est intéressant parce que finalement, les premières révoltes de jeunes avant les 60, avant mai 68, c'est les mouvements qui naissent un peu avec les Beatles, etc., qui sont les mouvements de revendication de la jeunesse sur lâchez-nous un peu les baskets, la fin d'une certaine forme d'éducation, la fin d'un certain rapport aux adultes, et une espèce de révolte. Et ensuite, la deuxième révolte...
Post-deuxième guerre mondiale aussi.
Post-deuxième guerre mondiale, mais finalement, qui va arriver chez nous en 68, en passant par les États-Unis. Et finalement, la deuxième révolte jeune qui remet en cause complètement tout l'organisation du pouvoir, qui est un peu la révolte punk, on pourrait dire entre guillemets, qui est un peu le nos futurs et qui est un peu une véritable révolution dans la pensée mondiale et notamment des pays occidentaux. C'est, tout ça se fait et la reine, elle, ne sert à rien. Elle n'est pas là, elle est juste un symbole. Et donc, on est touché par le symbole.
Elle récupère pas. Parce que Paul McCartney. Pardon, mais
elle récupère, bien sûr.
Non, mais c'est pas ça, mais c'est Paul McCartney a fini un oubli par la reine. Mais
absolument.
Mick Jagger aussi.
Mais c'est pas ça. Elle a récupéré, bien sûr.
Non, c'est pas qu'elle a récupéré, c'est que ces mouvements.
C'est un ferment d'unité.
C'est surtout eux qui ont accepté d'être un oubli par la reine.
Bien sûr.
C'est eux qui sont rangés.
C'est-à-dire que ces mouvements, finalement, à un moment donné, se calment, disparaissent. Et la reine
il a raison dans le positionnement qu'elle avait. Elle avait un rôle symbolique, je dirais, effectivement. Mais les problématiques économiques, etc. On a eu le Brexit, on a
social.
Eu
social,
les mouvements, des mouvements très durs du temps de Thatcher. Il y a eu des mouvements très durs en termes économiques.
La reine d'Angleterre, au temps de la démocratie, n'est pas là pour se mêler de politique. Et c'est en cela qu'elle a eu, ce quant à soi unique et qui fait aussi qu'elle a maintenu, toi tu dis que c'est un leurre, mais c'est pas tant que ça un leurre, elle maintient une forme d'unité, mais de tout temps, hein, United Kingdom, ça n'a jamais été United Kingdom, hein, entre les Écossais, les Irlandais, les Gallois, même à l'époque d'Henri VIII, c'était un problème. Donc le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre crée une espèce d'unité qui est une unité toujours factice.
Mais toi qui n'aimes pas l'hypocrisie, il y a quelque chose.
Mais ça crée une unité quand même.
Non, mais il y a quelque chose dans cette unité symbolique qui est de l'ordre tout de même d'un peu de l'hypocrisie, c'est-à-dire d'une façade qui nous est montrée, mais qui en fait ne change rien à la réalité des gens. Je rappelle quand même que
désindustrialisation dans les sociétés. Toi qui es anthropologue, tu sais qu'il faut du sacré dans les sociétés.
Elle, contrairement
au roi. C'est justement ça notre malheur, c'est qu'on en a plus du tout.
Contrairement au roi de France, n'est pas de droit divin. Hein, je rappelle, nous étions une théocratie.
Elle est chef de l'Église anglicane.
Elle est chef de l'Église anglicane, mais elle n'est pas là de droit divin.
C'est un peu un pape.
Elle n'est pas là de droit divin, mais elle a un rapport à la
France. C'est quand même une grosse différence avec notre royauté.
Elle a apaisé la société anglaise, mais c'est vrai que quand on regarde le moment Thatcher, ça a été terrible, les manifestations. manifestations, etc.
La désindustrialisation.
Non mais en fait, pardon, vous comprenez pas, c'est que la reine d'Angleterre, c'est pas son rôle.
Et, oui, et d'ailleurs, ça fait rien. Non, mais on tente de dire que grâce à elle, tout se passe bien en Angleterre.
Non, c'est pas ça.
Personne n'a dit ça.
Excuse-moi,
vraiment, Bruno, je crois qu'à un moment donné, vous comprenez pas ce qu'on dit. On est en train de parler d'une unité, symbolique et le fait aujourd'hui.
On a le droit de dire que c'est.
Mais les Anglais ne pensent pas, les Britanniques ne pensent pas que la reine d'Angleterre va régler le problème du gaz russe et de l'énergie. Ils n'ont jamais pensé. C'est pas
leur, comme dit Étienne.
C'est pas leur, c'est quelque chose qui fait ciment. Je comprends. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'ici, en France, il n'y a plus rien qui fait ciment. Il n'y a plus rien qui fait facteur d'unité. Il
n'y
a plus rien qui fait facteur d'unité. Donc vous ne comprenez même pas qu'il puisse y avoir une personnalité qui, en ne faisant rien, en ne disant rien, incarne quelque chose. Non,
mais je ne comprends pas ce qu'on dit. Parce que ne nous prends pas pour des burnes.
Mais non, tu me dis non. À chaque fois que je dis quelque chose, tu me dis mais non, c'est pas comme ça.
Mais
attends, tu viens de le dire.
C'est toi qui viens de le dire.
Je te dis juste qu'on a le droit de penser.
Personne t'a dit que tu n'avais pas le droit.
On a le droit de penser que cette reine. Est un leurre.
Mais non, c'est un contresens.
C'est pas un contresens. Ah,
pourquoi, Olivier?
C'est un leurre.
C'est un contresens.
Mais vous, en fait, ça n'empêche pas le respect.
Mais non, mais parce que vous ne comprenez pas. En fait, je pense que vous calquez la lecture de ce qui se passe en Grande-Bretagne par rapport à ce qu'on vit
pas
ici en France.
Tout.
La reine d'Angleterre, dans son rôle, c'est justement de ne pas intervenir.
Et d'ailleurs, elle a aucun
pouvoir. Reproche à Charles de l'avoir peut-être trop fait. On en parlera tout à l'heure. Parce qu'elle ne doit pas se positionner. Elle ne devait pas dire si oui ou non elle était pour le Brexit. Elle ne devait pas dire si oui ou non Thatcher ou
d'autres.
Voilà.
Oui, t'as raison.
Et c'est justement parce qu'elle n'intervient pas qu'elle peut être ce symbole d'unité et d'identité.
Oui.
Et c'est pour ça que aujourd'hui, même dans les moments où il y a eu des moments critiques sur la reine d'Angleterre, notamment à l'épisode Lady Di, reproché à la reine d'Angleterre d'avoir été peut-être trop froide, d'avoir laissé tomber Diana, etc. Et d'ailleurs, elle était intervenue à l'époque pour exprimer quand même son émotion. Mais à part ces épisodes-là, elle a toujours su maintenir cette unité, cette identité. Peut-être que ça va disparaître avec elle parce que Charles est différent. Moi, ce qui m'intéresse, Barbara, c'est quand même c'est quelqu'un qui ne choisit pas sa vie, c'est-à-dire que la pauvre, elle devait pas être reine, puisqu'on rappelle.
Quand tu es roi, tu choisis jamais.
Elle devait pas être reine, puisque rappelons que c'est le frère aîné qui a abdiqué pour George VI, le père d'Elisabeth, et donc Elisabeth à 10 ans, elle apprend qu'elle sera reine un jour.
Bah oui,
c'est quand même à 10 ans, sa vie bascule, et donc elle ne choisit pas sa vie, et pourtant, elle a mis sa vie finalement en second plan par rapport au rôle qu'elle a joué. Donc
surtout
ça, c'est vrai que c'est assez extraordinaire.
Surtout que le fameux Édouard VIII, qui s'appelait David en fait, était un homme un peu léger, un petit peu pas tellement respectueux des conventions, et surtout il est tombé amoureux d'une multidivorcée, Wallis Simpson. Mais en fait, il n'y avait pas que ça, c'est qu'il avait aussi dans cette période troublée des années 30, disons qu'il avait des amitiés particulières puisqu'il était quand même assez fasciné par le Troisième Reich et les nazis, ce qui n'était pas le cas de son frère George VI qui va lui succéder, ni la reine qui, pour le coup, la reine a toujours été très respectueuse et très attachée aux valeurs de la démocratie et aux valeurs des droits de l'homme.
Non, mais
donc heureusement que Elisabeth II, George VI d'abord et Elisabeth II ont remis la Grande-Bretagne, même si on était dans l'époque coloniale et qu'il se passait des choses dans les colonies britanniques qui n'étaient pas plus joyeuses et merveilleuses que dans les colonies françaises. Mais il n'empêche que... Et puis c'était le pays de Churchill.
Le pays
qui a été le dernier et le seul à résister aux nazis.
Barbara,
quand nous nous sommes couchés, n'est-ce pas? Et que tout le monde
Barbara,
a voté les pleins pouvoirs à Pétain, on rappellera.
Barbara, personne ne nie d'abord l'engagement de la reine pour son pays total. Personne ne nie l'engagement, d'ailleurs elle le montre pendant la guerre, et effectivement je pense que personne n'a de leçon à donner au Royaume-Uni sur sa résistance à l'occupant allemand, et donc effectivement sur ce plan-là, non, c'est simplement on nous demande si on est ému. Moi je dis je ne suis pas ému parce que je considère que on ne s'émeut pas pour un symbole, et je ne ressens pas d'émotion. Voilà, j'explique pourquoi je ressens pas d'émotion, parce que pour moi elle ne compte pas.
Alors,
sur le plan de l'évolution de la société.
Nous sommes dans le Rhône avec Victor. Bonjour Victor.
Salut les GG.
Bienvenue. La disparition de la reine d'Angleterre, ça vous touche, ça vous attriste ou pas plus que ça?
Alors,
dites-moi.
Donc pour situer le contexte, donc je vis avec ma copine qui est anglaise.
D'accord.
Donc on vit en France. Et en fait, pour répondre à ta question, je sais plus, c'est Étienne qui disait on ne s'émue pas pour un symbole. Moi, j'ai été ému par la réaction de ma copine en fait hier, qui est quelqu'un qui n'a pas encore 30 ans, qui ne s'intéresse pas du tout à la politique de son pays, mais j'ai vu à travers sa réaction, en fait, à travers le silence, en fait, si vous voulez, parce qu'elle a commencé à mettre la BBC assez tôt dans l'après-midi. C'est elle qui m'a prévenu d'ailleurs. Et au moment du décès, donc je l'ai vu complètement
effondré
en fait. Ouais. Non, pas forcément effondré, mais on sentait que ça la touchait. Et du coup, c'est ça qui m'a touché en fait. On en a parlé un peu plus tard, et c'est vrai que elle a eu cette phrase. Elle m'a dit tu te rends compte que 95% de la planète a connu l'Angleterre et le Royaume-Uni à travers Elisabeth II. À part les gens très âgés qui ont encore de la mémoire et qui se souviennent de son père, c'est vrai que quasiment la planète entière a connu. Enfin, voilà.
70 ans de règne, bien sûr.
Ouais. Voilà, bien sûr. Et enfin, moi, c'est la répartie que je lui ai faite, c'est peut-être que avec sa disparition, il y a peut-être des gens qui se croyaient importants, qui vont peut-être redescendre d'un ou deux étages. Et moi, c'est vraiment la réaction qu'il a eue. En me disant, mais alors, c'est quelqu'un qui s'intéresse pas à la politique, comme j'ai dit, qui va avoir 30 ans cette année.
Mais du coup, Victor, c'est intéressant. Est-ce que elle a prévu même un petit quelque chose de particulier pour,
Alors, pour la petite histoire, on part en Angleterre dimanche, en fait. Ben ouais. On part voir la belle famille, dimanche. Et,
vous arrivez au meilleur moment, là, ça va être.
J'avoue que je.
Pas pour le prix des hôtels, hein.
Oui.
oui, effectivement. Oui. J'avoue que pour moi, ça va devenir. Enfin, c'est pas que j'appréhende, c'est que je me dis, ouais, c'est quand même. On part à Londres.
Ah, vivre un événement. Tu vas vivre un moment historique, automatiquement.
Bien, voilà, on part sans notre fils, et plus tard, j'espère pouvoir lui dire, tu sais, quand on est
parti. J'y étais.
Ouais. Voilà, c'était quand la reine. Ça. Elisabeth est décédée.
Et la mort d'Elisabeth, l'avènement de Charles,
et la semaine
de deuil en Angleterre. Vous allez vivre, enfin, ouais, au rythme du pays, mais un rythme très particulier.
Ah oui,
mais
Victor, très particulier.
Victor, oui. Je vous remercie de ce témoignage à travers votre compagne, et vous allez voir dans un instant dans les grandes gueules, nous serons avec Moya qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Moya qui est anglaise, et elle nous dira justement des Alpes-Maritimes, de Nice, comment elle vit, elle, sur pas loin de la promenade des Anglais. Comment, et je vous rappelle qu'à Nice, il y a un très bel immeuble qui s'appelle le Palais Victoria.
Ouais, il y a l'OGC aussi.
Magnifique.
Elle a deux événements.
Mais ça, et c'est de la faute de qui?
La faute des Anglais?
Non, des Allemands.
Des
fois de plus. Une fois de plus. Bon, allez. On a une petite image, tiens, si vous êtes devant RMC Story, regardez. C'est le palais Buckingham avec le drapeau qui est en berne. Et dans un instant, on se retrouve en direct avec les GG, avec les grandes gueules, avec Moya, qui est anglaise. Puis vous nous dites si la mort de la reine d'Angleterre, ça vous touche, ça vous émeut, ou ça vous laisse complètement indifférent. À tout de suite.
RMC.
9h30.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct comme tous les jours. Et les amis, n'oubliez pas que l'on joue, que l'on gagne encore les produits Apple. C'est en envoyant coffre par SMS au 732-16. C'est un jeu en deux temps. D'abord, vous gagnez ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, vous avez un iPad ou une Apple Watch. Si ça vous va, tant mieux. Si vous êtes un tantinet joueur, vous me dites, Alain, le coffre. Et dans le coffre, possible qu'il y ait des AirPods, des écouteurs, je dis ça pour Barbara Lefebvre,
j'ai compris,
qui en est resté à la Mac Elite, ou un iPhone 14 qui vient de sortir. D'accord.
Et la montre n'est pas juste une montre.
C'est une montre Apple Watch. Donc, vous m'envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS. Sinon, il y a Dédé les doigts d'or qui vient l'ouvrir. Oui, si Dédé n'y arrive pas, il y a Jojo la dynamite qui vient faire péter.
Il sera serré par Pomard, le policier.
Pomard ensuite, ouais. Donc, allez, venez jouer. Vous envoyez coffre par SMS au 732-16.
En tout cas, vous êtes très nombreux à jouer chaque jour parce que hier, on a battu notre record d'audience historique. Les audiences sont tombées. Vous savez, à la télé, ça tombe le matin à 9h. RMC Story, hier, avec les grandes gueules, on était la deuxième chaîne nationale entre 9h et midi. Ouais. Et particulièrement sur les 25-49 ans, on a cartonné, on était troisième chaîne nationale. Bref, bravo mes chères grandes gueules. Je pense à Étienne notamment qui était avec nous hier.
Avec Sarah Saldman
et Kevin Bossuet.
J'étais bourré dès le matin hier.
Star, Étienne. Mais on peut y mettre des choses hein, dans votre coffre-fort.
On peut y mettre des trucs.
Un flingue, une paire de menottes.
Si tu veux offrir une paire de menottes un jour à des auditeurs.
Non, pour moi les menottes c'est un objet sexuel.
Alors, attendez les amis,
je pas dit ça. Attendez.
Permettez.
C'est bien ce que je pensais.
Let's go back.
Oui, let's go back. Il vaut mieux, oui.
To the main. Purpose of the Day. Avec Moya. Bonjour Moya.
On pourrait faire l'émission.
Oui, bonjour tout le monde. Oui. Bonjour.
Ma chère Moya, vous suivez les grandes gueules. Vous êtes
oui,
anglaise, Moya.
Oui. Ben, je suis anglaise d'origine, mais en fait, la plupart de ma vie, je l'ai vécue en France.
But you still have an accent.
I still have an accent. Oui. Impossible d'éliminer l'accent.
And you live by the promenade des Anglais.
Ah oui, j'habite à Bruy, à deux pas. Hein. Et d'ailleurs, si je peux juste dire un mot sur ce qui s'était passé hier avec les Allemands. Oui. J'ai dû aller voir mon médecin l'après-midi qui habite tout au bout de la Californie. La Californie, si vous ne voyez pas ce que c'est une parallèle à la Prome. Oui. Et en arrivant là-bas, le médecin m'a dit il n'y avait pas de mouvement dans la rue là-bas. Là. Et je dis il y avait des grappes de gens habillés en rouge, je ne sais pas qui ils sont. Il dit ça, ce sont les supporters de Cologne. Et quand je suis sortie de chez lui, chemin faisant dans la direction inverse, c'est-à-dire vers le centre-ville, ces grappes étaient de plus en plus nombreuses,
oui,
de plus en plus saoules, et de plus en plus,
violent.
Je dirais, mal se comportant. Et à mon avis, c'était évident que ça allait mal se finir. Hein. Et moi, je pensais que ça allait finir par des bagarres dans la rue. Apparemment, ça avait été évité, et ils ont réservé les bagarres pour le stade. Et je n'ai vu zéro policier. Hein.
On en parlera tout à l'heure. Mais merci déjà de cette petite indication que vous nous avez donnée.
Tu sais qu'il y a 150 000 Britanniques qui vivent chez nous, qui vivent en France. Oui. Hein.
Et avez-vous été touché par la disparition de Queen Mum, alors?
Oui.
Est-ce que vous avez été touché, ému?
D'abord, le Queen Mum, c'est pas la reine. Hein.
Non,
Queen Mum,
c'est vrai, vous avez raison.
La mère de la reine. Oui. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Est-ce que j'ai été émue? Ben non, parce qu'on se l'attendait. D'abord, étant donné que j'habite ici et pas là-bas, donc je suis assez coupée de, disons, des traditions, etc., anglaises, mais c'était clair qu'un jour, elle allait devoir disparaître. Et là, le jour est venu, par exemple, déjà pour le jubilé, on le voyait à peine, donc c'était clair que ça n'allait pas du tout et qu'elle allait disparaître d'un jour à l'autre. Bon, ça s'est fait avec la plus grande et efficace organisation possible. Les obsèques avaient quelque chose, donc ça, sans doute, je serai devant mon écran comme tout le monde. Mais quant au reste, de comment elle a régné et de comment elle, ce qu'elle va laisser derrière elle, moi je dis que il faut pas oublier non plus qu'elle a hérité de ce système de caste anglaise où la royauté était la royauté et intouchable. Et c'est grâce à Diana, qui je n'appréciais pas beaucoup non plus, c'était grâce à Diana que finalement, elle leur a dit, finalement la plaie, on peut la toucher, hein, la plaie peut nous toucher, rien ne va nous arriver. Et c'est grâce à cela que ces gens qui vivaient, par là je veux dire, pas seulement la monarchie, mais toute l'aristocratie qui ouais. l'environnait, c'était une classe à part et intouchable par la masse. Et moi, je faisais partie de la masse ouvrière. Et on regardait ça presque comme un film.
C'est ça.
Presque comme
c'est ce
un film d'Hollywood. Et ça se passait au-dessus de nos têtes. On n'avait absolument ni l'idée, ni la reine touchée à tout cela.
La reine avait aussi beaucoup d'actions caritatives. Elle allait dans des maisons de retraite, elle allait dans des crèches, elle allait dans les hôpitaux. C'était pas non plus quelqu'un qui et tous les témoignages de gens les sujets de Sa Majesté, comme on dit, disaient que quand elle parlait à quelqu'un, même le peu de temps qu'elle accordait à quelqu'un, elle lui accordait vraiment de son temps. Donc, mais je suis d'accord avec vous. L'aristocratie britannique a des codes qui ressemblent à une caste quasiment de sang, avec un mépris pour ceux qui ne font pas partie de l'aristocratie britannique, ça, on est et de l'aristocratie en particulier autour de la monarchie. Néanmoins, je pense que c'était quand même une reine qui savait aller vers ses sujets et y aller avec une certaine humanité.
Donc, mais attends, c'était son rôle, non, la représentation.
Vous avez tort. Vous avez tort.
Bah, c'est pas ce que vous disent beaucoup de gens qui l'ont côtoyé.
Là, c'est pas vrai. Elle n'a jamais touché personne. Ou si elle touchait quelqu'un au hasard, c'était avec des gants. Hein.
Ah, touché, ouais. Vous voulez dire, ah, oui, physiquement.
Non, mais c'est symbolique.
Ah, oui,
vous savez, il y a des gens, il y a des gens, ils arrivent. Non, mais attendez, moi, je suis d'accord avec vous, mais ceci étant, peut-être qu'il y avait l'idée de toucher au sens de la caste, etc. Mais vous avez des personnalités politiques ou autres qui passent leur temps à agripper les bras des gens en croyant qu'ils font de la com, et il n'y a pas non plus d'humanité et de sincérité dans ce qu'ils font. Hein.
Moya, je vous remercie d'avoir été avec nous, Moya, et je vous souhaite une bonne journée du côté de Nice, ma chère.
Et Charles fera un excellent roi, hein, il est très bien, ce garçon.
Eh bien, écoutez, merci, on en parlera tout à l'heure. Merci, Moya, d'avoir été avec nous.
Ce que dit Moya est très intéressant. Effectivement, je pense que l'Angleterre, United Kingdom, c'est vraiment tranché en plusieurs parties de tranches sociales, comme nous l'avions été, mais disons qu'eux, ils ont conservé ça plus longtemps. Ça s'est un peu cassé la figure ces derniers temps, mais je pense que réellement, les gens de la masse ouvrière avaient vraiment ce sentiment. Elle a utilisé cette expression incroyable, c'était comme un film. C'est-à-dire, en fait, c'était pas la réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une espèce de film qui défilait. Nous projetons quelque chose qui est de notre propre histoire, sauf qu'on oublie que à l'époque, ce qui était très important pour le roi de France, c'était qu'il était de droit divin et que précisément il avait un rôle de représentant de Dieu sur terre, mais que nous étions très croyants à l'époque, mais tout ça s'est effondré et finalement c'est resté un film. Et je pense que, est-ce qu'on va arriver maintenant dans le passage à la réalité ou est-ce qu'on va rester dans ce film? Et la bonne question à poser, qu'on posera tout à l'heure, est-ce que nous avons besoin d'un film? Est-ce que nous avons besoin d'un film, c'est-à-dire d'un leurre, pour continuer de vivre ou faire semblant de vivre?
Ça permet de rêver. Non, voilà. Mais le film, t'as raison, ça permet de rêver et de faire plaisir à la grande majorité des Britanniques qui adorent cette
langue. Mais il se peut qu'on en ait besoin.
C'est un peu une rockstar, en quelque sorte. Hein.
Un peu comme la laïcité ici.
Daniel Craig, ou je ne sais qui, au niveau mondial, puisqu'on parle d'elle au niveau mondial, la mort de Michael Jackson. Je veux dire, c'est pareil, on en est à ce stade-là. C'est-à-dire,
c'est la femme la plus connue au monde.
Mais c'est pas une gouvernante.
Alors attends, je voudrais qu'on écoute Stanislas. Attends une seconde. Parce que Stanislas, qui nous appelle d'Angleterre, il nous appelle de Coventry, où il écoute les GG via Internet. Bonjour Stanislas.
Bonjour, comment allez-vous?
Cher Stanislas, merci de nous appeler de Coventry. Alors, quelle est l'atmosphère justement dans la ville de Coventry ce matin? Alors, dites-nous.
Écoutez, je vais être franc avec vous, j'ai pas vu des gens en pleurs se lamenter comme en Corée du Nord, hein, quand même. Hein, mais ceci dit, c'est vrai que la plupart des Anglais vont être touchés par la mort de la reine. Même ceux qui ne sont pas royalistes, il y a évidemment beaucoup de royalistes, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas. Mais les Anglais ont cette force que nous, on n'a pas, c'est de se rassembler pendant les événements les plus importants. Et je sais qu'ils seront quand même assez touchés par la mort de la reine.
Mais voilà, bah, t'es ému, ému ne veut pas dire manifester ça par
des Anglais, c'est normal qu'ils soient émus.
Non, mais ils sont émus, ils savaient que c'était une dame âgée, qu'elle était fragile, ils s'attendaient à sa mort, mais ils sont émus pour tout ce qu'elle représente.
Mais l'icône. Mais Stanislas, puisque vous vivez en Angleterre depuis combien d'années maintenant, Stanislas?
Ça fait bientôt 24 ans.
24 ans en tant que Français, donc là-bas.
Ah bah oui, je suis français. Oui.
Mais Stanislas, ce matin, est-ce que c'est le sujet de conversation avec vos collègues ou entre voisins? Dites-nous.
Ah bah oui, forcément. Là, c'est vraiment oui, bien sûr, évidemment, tout le monde en parle. C'est certain. Mais ceci dit, tout le monde en parle comme si l'Angleterre avait gagné le championnat d'Europe. Ils en auraient parlé aussi pendant. Ils en parleraient encore, d'ailleurs. Hein. Donc, oui, forcément que tout le monde en parle. Mais vous savez quand même qu'il va y avoir 12 jours de deuil national, dont 4 jours fériés. Donc évidemment, ça va toucher toute la nation, ça va toucher tout le monde, britannique ou pas britannique d'ailleurs. Hein,
Stanislas, parce que aujourd'hui la Grande-Bretagne vit une période d'inflation, vient de changer de Premier ministre. Oui. Donc est-ce que ça veut dire que pour les Britanniques, bon, la mort de la reine, on s'y attendait, c'est triste, mais il y a plus important aujourd'hui.
Est-ce que le protocole n'est pas un peu un protocole forcé là?
Comme je vous l'ai dit précédemment, quand il y a un événement très grave, les Anglais se rassemblent toujours. Donc pendant un moment, ils ont oublié ces problèmes. mais ça va repartir de plus belle. Hein. Et effectivement, moi qui suis français, je vous avoue très sincèrement que la mort de la reine, ça me fait ni chaud ni froid, et je me fais beaucoup plus de soucis pour mes futures factures d'énergie à partir du mois d'octobre que par le décès de la reine. C'est bien évident.
Bien sûr.
D'ailleurs, c'est mais je sais qu'il y a des tas d'Anglais qui sont exactement dans mon état d'esprit, mais ils ont quand même cette force de caractère qu'on n'a pas en France.
Le décès de la reine, d'ailleurs, est annoncé alors que Liz Truss à la Chambre des Lords était en train d'annoncer justement son plan pour essayer d'enrayer cette crise énergétique qui est beaucoup plus forte en Grande-Bretagne parce qu'ils n'ont pas le bouclier énergétique, ils ont une inflation beaucoup plus forte. Il y a eu des manifestations, notamment d'Anglais qui ne veulent plus payer leurs factures. Pour l'instant, nous, en France, on n'en est pas là. Mais
ça, c'est la réalité.
Et vous avez bien de la chance, mais dites-vous bien que le bouclier énergétique, vous allez le payer du.
Mais bien sûr, c'est pas de la chance. Non, Stanislas, c'est pas de la chance. Le leurre qu'évoque Étienne avec l'idée que la monarchie serait un leurre, etc. Nous, notre monarchie
leurre,
à nous,
notre
leurre à nous, c'est le bouclier, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est le. Oui, vous inquiétez pas, l'État nous vous protège. Il nous protège rien du tout. Donc,
rassurez-vous,
on n'est pas dupes.
Mais Stanislas, pour revenir à ce qui nous intéresse, vous êtes du côté de Coventry, qui n'est, c'est le centre de l'Angleterre, c'est pas très loin de Birmingham, je crois, c'est
exactement,
ça.
Exactement, c'est juste à côté de Birmingham, c'est à une vingtaine de kilomètres.
Est-ce que vous allez vous mêler aux célébrations ou pas du tout?
Non, pas du tout, non. D'abord, premièrement, parce que je travaille la nuit, j'aurai pas le temps. Et puis même, de toute façon, non. Écoutez, moi, je suis français, je suis pas britannique, même si j'ai vécu depuis très longtemps. Malgré tout, je suis français, je respecterai ce qu'il y aura respecté. Il y aura des minutes de silence dans les lieux publics que je respecterai, évidemment. Si je suis dans un lieu public au moment où il y a cette minute de silence, il y aura des choses que je respecterai parce que on fait comme tout le monde, hein, on suit le mouvement, bien évidemment. Mais voilà, d'un point de vue personnel, non, je vais pas me... Je ne vais pas du tout m'impliquer.
Merci d'avoir été avec nous, Stanislas.
Je vous en prie.
Vous êtes un fidèle DGG du côté de Coventry?
Alors, je vous avoue que je suis plutôt, comme je travaille la nuit, j'écoute plutôt la matinale avec Apolline et Charles Magnin.
Oui.
Et à cette heure-ci, normalement, là, je suis en week-end, donc j'ai fait une exception. Mais à cette heure-ci, je suis déjà au lit, normalement.
Eh bien, écoutez, merci de cette exception et continuez d'être fidèle à RMC, à Apolline et à Charles. Bonne journée du côté de Coventry. Merci Stanislas de nous avoir appelé. On a une image là, rapidement, regardez. Nous sommes à Balmoral, c'est en Écosse, pour ceux qui sont devant RMC Story.
Il pleut, ça se voit.
Effectivement.
Il fait un temps anglais.
C'est en Écosse. Et ce sont les fleurs qui sont déposées devant le mur de la résidence estivale de la reine d'Angleterre. Résidence privée. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. La mort de la reine Elisabeth II, est-ce que ça vous touche? Êtes-vous triste? Vous voyez, c'est très partagé. Oui. C'est un non quand même qui l'emporte très légèrement à 52,7%. Un oui à 47%. Mais il y a près de 2000 personnes quand même qui ont participé au vote.
Triste, c'est un sentiment fort. On peut être ému et touché.
Bien sûr.
Mais triste... on est triste pour des événements catastrophiques comme on en a connu en France, Charlie, Bataclan, etc. Mais là, c'est la mort d'une vieille dame aussi. Oui. On le savait, on le pressentait. Après, on peut être touché par la personnalité et touché par ce qu'elle a été dans sa vie, mais touché aussi par ce qu'elle représente. Parce que là-dessus, Étienne, qui est anthropologue, les sociétés, elles ont besoin d'identifications qui sont de l'ordre du sacré. Quand j'ai du sacré, c'est pas du sacré religieux. C'est quelque chose, une sorte de figure tutélaire. Ça peut être une personne, ça peut être des idées. Nous, on a voulu croire pendant un certain temps que les droits de l'homme, nos grandes valeurs, ça nous servait de symbole tutélaire sacré. Bon, on se rend compte que...
Pourquoi tu dénigres toujours, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde se cache derrière, par exemple, la laïcité qui devient une sorte de symbole qui serait à la fois une définition et une espèce de protection et à la fois une définition. On peut tout à fait discuter de la symbolique réaliste de la laïcité. Il n'empêche que c'est les hommes eux-mêmes qui créent ce symbole. On a effectivement, les sociétés ont besoin de ce symbole qui transcende le matériel. Mais il existe de toute façon dans toutes les sociétés. La France n'est pas plus mauvaise que les autres.
Ah mais d'accord.
Allez,
c'est sans arrêt de casser le pays. Je vois pas l'intérêt. dirais. On a besoin, effectivement. Il n'y a pas de raison.
Tu dénigres.
Non, non, il n'y a pas de raison de dénigrer.
Tu dénigres la reine d'Angleterre. Mais non,
je ne dénigre pas. Je ne dénigre pas. Tu me demandes si je suis ému. Je dis non.
Je dis non.
C'est un leurre, effectivement. Et ça ne veut pas dire que le leurre est, ça ne veut pas dire qu'un leurre est inutile. Ça veut dire que pour moi, français, je regarde ça comme un leurre et je ne suis pas ému. Ça ne veut pas dire que le leurre est inutile. Ça ne veut pas dire que la laïcité en tant que symbole est inutile.
Là, il est l'heure de passer à autre chose.
Ça détourne. Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas avec les grandes gueules. Et tout à l'heure, à 10h, on reviendra sur la violence, les incidents hier au stade Allianz Riviera à Nice avec ce supporter qui a été poussé dans la tribune, qui a fait une chute de 5 mètres, un autre qui a été blessé d'un coup de couteau. Y a-t-il eu une erreur, une sous-dimension du service de sécurité à Nice avant le match contre Cologne? 32-16 pour en parler avec les GG. Mais dans un instant, on s'en fout pas.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui l'ancien policier du Raid. Il est maire de Belleflou dans l'Aude, l'un des plus beaux villages de France.
Merci. Alain.
C'est Bruno Pommard, nous sommes avec...
Et je vais me présenter à Belleflou l'an prochain, on verra.
Il veut être roi, roi Étienne.
Il y a une liste qui a essayé de s'opposer. Ils sont tous passés à la casserole.
Ouais, mais là, avec des vrais gauchistes écolos, nous sommes avec gauchistes. Je crois moi que ça va tomber.
Étienne Liebig, éducateur. Barbara Lefebvre, prof en cours de reconversion. Les amis, c'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec Louis Gerbier, notre coproducteur. Bonjour Louis.
Bonjour, comment ça va les GG?
Mais mon cher Louis, on t'attendait avec impatience. C'est parti.
Alors, on s'en fout pas, le patrimoine de la reine estimé à 28 milliards de livres. Étienne.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Ouais, moi ça m'interpelle quelque part. Ouais. Normalement, avec le rôle de représentation. Mais oui, avec le rôle de représentation.
Attends, on s'en fout pas, Bruno. Ah, tu peux respecter les règles.
On s'en fout pas.
C'est la première fois.
Okay,
on s'en fout pas, d'autant que Charles.
Alors, bon, alors, pourquoi?
Pourquoi? Vas-y.
Pourquoi on s'en fout pas?
Exactement.
Mais parce que je pense qu'effectivement, pour les Britanniques, là, maintenant, ce gap-là entre la famille royale très dépensière. D'ailleurs, on a vu que la reine avait essayé de restaurer un peu. Et surtout Charles, qui lui, à mon avis, aura une gestion plus économe de la représentation de la monarchie, hein, parce que il est plus écolo et aussi il a compris que là il y avait un gap avec les Britanniques qui était pas possible, qui était pas tenable.
Etienne. On s'en fout pas parce que si tu veux c'est comme si le 20e siècle n'avait pas existé et c'est comme si on avait fait un saut du 19e au 21e et c'est devenu quelque chose de très problématique, c'est-à-dire qu'il continue de vivre comme au 19e siècle et même 18e avec cette espèce d'acquis que tout le monde respectait parce que c'était quelque chose d'un peu divin tout ça, mais aujourd'hui tout ça c'est balayé et je pense que la réalité reprend peu à peu ses droits et ça ira plus loin que le fait de ce que Charles pourra faire. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ne le supporteront plus, même s'ils adulent la royauté. Ils ne le supporteront plus.
En même temps, il faut que la monarchie britannique ait encore un peu de faste, mais pas qu'elle tourne aux monarchies suédoises. Un peu à l'espagnol, ce serait bien, comme Felipe. J'aime bien le roi Felipe.
Allez, on enchaîne. Avec le roi qui est parti avec
Juan Carlos. Ça, c'est Juan Carlos. Moi, je te parle du roi Felipe, c'est pas le même.
C'est monarchie-là,
on continue, on s'en fout pas.
On s'en fout pas. Les Français jettent environ 67 euros d'aliments par mois. Étienne, on s'en fout, on s'en fout pas?
Bah, on s'en fout pas, non. Ouais. On peut pas s'en foutre.
Monsieur le maire, on s'en fout.
Ben non, on s'en fout pas, parce que c'est même dramatique d'entendre ça, quoi. C'est clair.
Et Barbara?
Ah ben non, on s'en fout pas, évidemment. Hein. Le gâchis. Et toutes les politiques qui ont été conduites, là, les politiques anti-gâchis, etc., on voit que pour l'instant, ça ne fait pas son effet. Et une partie, d'ailleurs, des problématiques de ces 67 euros d'aliments, c'est les fausses dates limites de consommation. Les gens pensent qu'il faut jeter le yaourt parce que...
Tu manges le yaourt après la date.
Mais c'est les règles qui ont posé
ça. Ça faisait 17 jours qu'il était dépassé.
Et tu l'as mangé?
Oui. En même temps, Barbara, c'est un peu comme beaucoup de sujets, c'est de l'éducation.
Jette
pas de la bouffe, c'est tout simplement. C'est le manque d'éducation.
Je signale quand même qu'on est arrivé, et là, Barbara a raison, on est arrivé à mettre des dates limites de consommation sur du jambon cru et sur du fromage, dont la propriété particulière du jambon cru a été fabriquée pour qu'on puisse le conserver, contrairement à d'autres jambons, qu'on puisse le conserver en le salant, c'est-à-dire qu'il ait une vie, non pas éternelle, mais très longue.
Qui a voulu ça? Pardon, non. Mais c'est énorme qu'on s'impose. Je veux dire, pourquoi notre hygiénisme...
Non. Sur les dates,
c'est
commercial uniquement.
Non, pas du tout.
On n'a pas regardé les produits.
arrête, non, non, mais non, non.
Je te dis, alors sur certains trucs, tu as raison, mais tu as tort.
À aseptiser aussi la nourriture.
Tu as tort sur le jambon et sur le fromage.
Il y a des milliers de produits. Toujours ce qui se passe aux États-Unis, c'est le phénomène américain.
Tout à fait.
Voilà. Aux États-Unis, mange pas le fromage.
Je te l'accorde que l'hygiène, que l'hygiénisme y a fait beaucoup, mais sur beaucoup de questions, c'est uniquement industriel. C'est-à-dire que quand on est arrivé, comme avec le yaourt d'Alain, quand on est arrivé et qu'on a dépassé la date, on jette, alors qu'en fait, 17 jours. On sait que c'est très bon.
17 jours. Et si on ne le fait pas, inversement, tu vas être le premier à tomber dessus en disant les mecs, ils n'ont pas fait attention.
Le jour où il y a un enfant qui sera intoxiqué, Étienne Libic sera le premier en disant
évidemment.
On n'a pas mis de règles, on n'a pas mis de normes.
Exactement.
Voilà.
On continue.
On enchaîne. Refus d'obtempérer, le policier tireur toujours en garde à vue. Barbara, on s'en fout pas.
À Nice.
Oui, on s'en fout qu'il soit en garde à vue, puisqu'il a tiré, il y a un cadre légal.
Donc après, tu t'en fous.
Bah oui, je m'en fous, mais après.
Non, moi, je m'en fous pas. Sur le principe, effectivement, la loi veut que ce policier soit en garde à vue. Ça veut pas dire pour autant qu'il est inculpé. Donc, voilà. Ça m'interpelle quand même, toujours.
Étienne.
Écoute, on s'en fout pas parce que si on veut défendre la police et les actions de la police et si on veut être derrière nos policiers, il faut qu'ils soient absolument irréprochables. Et quand il y a une erreur de commise, il faut absolument.
Il y a pas d'erreur, hein. Mais il m'impressionne quand même. Il a évolué, Étienne.
Je n'évolue pas, je l'ai toujours dit. Vous avez toujours projeté.
Je suis pas un amoureux de la police.
Vous projetez en permanence sur un certain nombre de gens une haine comme ça, alors que tout le monde a besoin de la police.
C'est pas
toujours.
De la haine,
et
Étienne,
non,
c'est
il
pas
est
la
simplement
haine.
Que si on veut apprécier nos policiers, il faut que les policiers eux-mêmes et que les syndicats arrêtent d'être surpuissants et qu'on n'ait même pas le droit de s'exprimer.
Étienne, tu peux pas dire que c'est une erreur. Il faut attendre justement à la fin de l'enquête pour savoir si c'est une erreur.
Il a évolué, ça me fait plaisir.
Il avait le droit ou non de tirer.
Je n'ai pas évolué d'un pouce.
En tout cas, c'est nécessaire d'être mis en garde à vue quand on a tiré sur quelqu'un, même quand on est un policier.
Bien sûr, c'est pour les besoins de l'enquête.
Il y a l'enquête, bien sûr, à juste titre.
Donc c'est anecdotique, on s'en fout.
Il y avait on voulait mettre en place la présomption de légitime défense, vous savez, le fameux truc qu'a voulu faire Castaner. Mais en même temps, tu as raison, c'est la procédure, c'est comme ça, ça ne va pas dire
que
c'est
un petit dernier.
Allez, c'est pas tout à fait on s'en fout pas, mais on va poser une question. Est-ce que pour vous, Charles ferait un bon roi, Étienne ?
On s'en fout, on s'en fout pas.
Mais on s'en fout.
On s'en fout.
Charles
Étienne.
III.
Ouais, Charles III.
On s'en fout complètement.
Et Barbara.
Moi, ça m'intéresse. Je pense que Charles III fera un bon roi, un roi de transition intéressant parce que justement, il va préparer la monarchie à être un peu plus sobre et peut-être aussi sobre en termes d'énergie. Il va préparer William et Kate à devenir les successeurs parce que, puis moi, j'aime bien Charles et Camilla. Je trouve que c'est un couple qui s'aime. Comme d'ailleurs Elisabeth et Philippe, c'était un couple qui s'aimait.
De France,
et on lui avait bien pourri sa vie à Charles en lui mettant Diana dans les pattes.
Ils aiment les animaux, c'est important. Ça.
Ils aiment la reine aimait beaucoup ses corbillas et ses chevaux. Il aime les animaux. Lui,
t'as ses
couilles. Lui, il n'est pas allé chasser en Afrique, dans les safaris et compagnie.
Il mange pas de viande.
Il mange pas de viande. Non, moi j'aime bien Charles, mais après je pense que ce sera qu'un roi de transition. Mais je pense que c'est.
Bah, il a toute la vie devant lui. Excuse-moi.
Charles I. Était le roi en 1649 qui a été décapité. Charles II, son fils, lui a succédé. Donc là, on est à Charles III. Donc, je pense que Charles III, il va pas durer très longtemps, mais il va.
Il a 73 ans, il va avoir 74 ans.
Il a encore 20, il a 25, 26 ans.
Il peut faire un petit 20 ans de règne.
Oui.
Non, moi, je pense même pas. Quelques années, il abdiquera pour William.
Parce que ça règle pas les problématiques économiques et sociales de nos amis britanniques. C'est pour ça que ça m'interpelle. L'impression de dire un truc là.
Il peut refonder la monarchie différemment, justement. Ça peut être une monarchie un peu plus à l'espagnole.
Allez, dans un instant, avec les GG, merci Louis.
Merci à vous, bon
week-end. Avec les grandes gueules, Nice, les incidents, la violence hier. Avant le match et pendant avant le début de la rencontre dans le stade entre les supporters de Cologne, quelques supporters niçois, y a-t-il eu un problème de sous-estimation du danger? 8000 supporters allemands qui sont arrivés sur Nice. On a vu les images de la place Masséna qui était
ça fait
rouge
80 000 litres de bière, ça.
Et blanche.
Que des Allemands.
Où sont les erreurs? 32-16 pour venir en parler avec les GG.